France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et les voici, les voilà, approchés, ils sont issus de la plus belle fabrique des débatteurs, remis en liberté puis chassés hein, pour leur pelage. Ils ont pris goût à l'actualité fraîche du jour. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Audrey Rossigneux, bonsoir.
Bonsoir.
Également le communicant Guillaume Jubin, bonsoir.
Bonsoir.
Judith Vintraube du Figaro,
ça
bonsoir.
Ça va pas mieux.
Mais si, voilà. Vous êtes en pleine forme. Et Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, 4 débats en méli-mélo de l'actualité. Guyane, jour de colère numéro 2. Un débat mal parti. Les déçus de la présidentielle sont déjà déçus, en fait, avant d'avoir même voté. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudrait crier toute première fois. Oui, ce matin, Marine Le Pen a peut-être eu envie de chanter du Jeanne Masse en se rendant au rendez-vous fixé par une douzaine d'organisations patronales, dont le MEDEF. Hein. D'autres candidats comme François Fillon, Emmanuel Macron ou Jacques Cheminade étaient interrogés sur les thèmes de la mondialisation, de la compétitivité ou des réformes sociales. Mais c'est bien la présidente du Front National qui était la plus attendue. En effet, c'était donc la première fois que le MEDEF donnait la parole à la candidate frontiste, une initiative voulue par Pierre Gattaz, qui avait pourtant sévèrement taclé le programme économique de Marine Le Pen. De quoi a donc parlé Marine Le Pen devant les patrons? Des PME qu'elle privilégie aux multinationales et l'euro comme une menace. Mais pas de panique, le franc c'est super, c'est même vintage, Marine Le Pen.
Nous avons vécu 15 siècles avec notre monnaie, 95% des pays du monde ont cette monnaie. Je ne souhaite pas le chaos, je ne souhaite pas l'effondrement, je ne souhaite pas prendre les Français ou les entreprises par surprise. Je souhaite qu'on pose enfin le problème sur la table de cette monnaie qui, incontestablement, est considérée aujourd'hui non seulement par les entreprises, mais par les Français comme un frein et qu'on y apporte les solutions.
Voilà, Marine Le Pen devant les organisations patronales ce matin. Alors, Guillaume Jubin, vous disiez tout à l'heure, hors micro, que vous y étiez, justement, vous, l'allocution de ces différents candidats. Comment Marine Le Pen a été perçue par les patrons?
Je crois que la première chose, Marine Le Pen, elle cherchait surtout le symbole, c'est-à-dire rentrer et achever le processus de normalisation qu'elle tient dans le débat public. Et d'une certaine manière, c'est réussi. Et le fait d'être à ce débat montre qu'elle est un candidat parmi les autres. Elle endosse le costume, quelque part, de la présidentielle qui a des chances de gagner. C'est en tous les cas comme ça qu'elle se présente. Elle endosse ce costume-là. Et d'une certaine manière, elle achève la normalisation. Après, dans le débat, on a bien vu quand même qu'elle n'avait pas les codes, justement, de ces débats, qu'elle était moins habituée que les autres. Et d'une certaine manière, un peu plus en faiblesse sur les propositions qui ont été les siennes, qui ont été beaucoup plus challengées. Elle avait beaucoup de notes avec elle. Elle a donné l'impression, quelque part, d'être moins préparée à cette joute de questions qui lui étaient posées par les dirigeants d'entreprise.
Et c'est juste, les propositions ont été considérées comme crédibles sur place quand elle les a énoncées
On a vu qu'elle a surtout cherché à montrer, elle n'est pas rentrée forcément dans le détail de toutes ces propositions, elle a surtout cherché à montrer, comme elle le fait souvent, que ces propositions étaient caricaturées par les médias. Et donc, c'est surtout sur cette corde-là qu'elle a joué, en évitant, quelque part, de rentrer trop précisément dans ces mesures. Je crois que là, c'était peut-être la faiblesse sur laquelle elle était dans ce débat, peut-être dans l'incapacité d'aller trop précisément sur les points durs qui étaient ceux de son programme.
Alors, Judith Vintraube, juste, on se souvient de Laurence Parisot, ancienne dirigeante du MEDEF, qui, elle, ne souhaitait pas dialoguer avec Marine Le Pen. Pierre Gattaz a invité aujourd'hui Marine Le Pen à débattre, à faire donc montrer ses propositions économiques. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, cette démarche de la part de Pierre Gattaz?
Vous avez vu à combien elle est donnée dans les sondages, Marine Le Pen?
C'est donc pour ça.
Je trouve que c'est Laurence Parisot qui faisait une erreur. Ça n'a pas contribué à faire baisser le Front National. Donc c'était parfaitement inefficace, voire contre-productif, comme à chaque fois qu'il a été question de diaboliser Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Et pour s'agissant d'une candidate dont le programme est économique est décrit par à peu près tous les autres, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, comme une aberration. La moindre des choses, c'est quand même qu'elle puisse s'expliquer devant un public dont les intérêts pour les programmes économiques sont les premiers, sont les potents. Elle peut avoir un peu de contradicteur.
Il n'avait pas le choix.
Oui, ça.
Elle était depuis Paris, les européennes, et elle clamait partout qu'elle était le premier parti de France, etc. De fait, c'est compliqué aujourd'hui de théoriser le fait qu'on ne l'invite pas, alors qu'on invite Jacques Cheminade. Enfin, comment on dit, j'invite Jacques Cheminade, j'invite tout le monde, mais pas Marine Le Pen. ça va finir par se voir. Donc, et puis surtout, elle en joue. Elle joue de ça. Et d'ailleurs, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Elle est restée relativement floue sur son programme. Ce qu'elle a essayé de faire, justement, c'est elle-même d'achever sa dédiabolisation en disant le grand méchant loup n'existe pas, les ogres n'existent pas.
Elle employait ce terme.
Voilà. Et c'est pour ça qu'elle était là. C'était juste pour dire, en gros, c'est un peu, n'ayez pas peur, quoi.
Mmh. Oui, elle a même juste là-dessus son programme, elle a même parlé, puisqu'elle veut rétablir les droits de douane, hein, c'est une des mesures phares de son programme. Elle dit non, mais on fera de la microchirurgie sur les douanes. Donc elle est forcée de reculer devant un parterre de patrons. C'est quand même ça.
Alors, Christophe Hague, juste, elle s'est appuyée donc, sur les PME hein, par rapport aux multinationales. C'est ce qu'elle a dit.
C'est populaire.
Voilà. Oui, mais alors c'est populaire et en même temps, est-ce que finalement c'est aussi toujours surfer sur le côté un peu poujadiste, c'est-à-dire sur les petits artisans, sur les petites entreprises, comme là où est né finalement le Front National?
Un petit peu, mais on remarque quand même que le programme du Front National, bon, effectivement, d'un point de vue économique, il est rejeté par l'immense majorité des chefs d'entreprise, des économistes, mais il est quand même un peu plus développé, étayé, etc., que par le passé, qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Donc on voit quand même que la thématique, elle est plus forte. On voit qu'elle joue beaucoup sur cette idée de Made in France, de relocalisation de la production. Elle a marqué un point lors du débat avec les autres candidats quand elle a dit on va délocaliser l'usine Whirlpool en Pologne. Et ensuite, c'est les chômeurs français qui travailleront plus chez Whirlpool, qui achèteront la machine à laver à crédit qui sera vendue depuis la Pologne. Donc elle a montré quand même qu'elle avait... disons, une compréhension des mécanismes économiques qui était quand même un petit peu plus développée que ce qu'on voyait par le passé. Bon, on pense d'ailleurs que c'est tout ça est largement inspiré, sans doute, par Philippot, qui lui est quand même sur une thématique économique très forte.
On va continuer à parler justement de cette présence de Marine Le Pen devant le MEDEF, mais également de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonhomme.
Pierre Gattaz ne soutient pas officiellement François Fillon, mais un gros faible pour son programme économique. Le président du MEDEF était l'invité de France Info ce soir, alors que 4 candidats viennent de présenter leur projet économique aux entrepreneurs. Les réformes que propose Fillon sont les plus abouties, selon Gattaz, qui affirme que le programme du candidat de la droite va vers la croissance. Près de 12 000 manifestants en Guyane, à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni pour cette journée morte dans la collectivité d'outre-mer. Deuxième jour de la grève générale illimitée. Une mobilisation historique selon les organisateurs. Dans Cayenne, l'avenue de Gaulle qui mène au centre historique était noire de monde. Ce matin, manifestation dans une ambiance bon enfant. Les 500 frères, mouvement de citoyens cagoulés, créé récemment pour lutter contre l'insécurité en Guyane, ont ouvert le cortège. Theresa May donnera demain le coup d'envoi du Brexit et à la veille de cette date historique pour le Royaume-Uni, l'affront du Parlement écossais, les députés donnent leur feu vert à l'organisation d'un référendum d'indépendance. Mais pour avoir lieu, cette consultation devra d'abord être validée par la Première ministre britannique. Gilles Simon, Luc Capouille, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert retenus par Yannick Noah pour affronter la Grande-Bretagne en quart de finale de la Coupe Davis. Les matchs se joueront du 7 au 9 avril à Rouen. Le capitaine de l'équipe de France se réserve toutefois le droit de faire entrer Gaël Monfils retenu comme remplaçant.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'audition de 4 candidats à la présidentielle devant les patrons et notamment devant le MEDEF et avec Marine Le Pen qui pour la première fois s'exprimait devant le MEDEF. Alors justement, Marine Le Pen en a profité pour tacler légèrement Pierre Gattaz quand elle était à la tribune et ce soir sur France Info, Pierre Gattaz lui a répondu, on l'écoute.
Elle est dans le repli, malgré tout, parce que vous savez, la sortie de l'euro, ça va être de l'incertitude, ça va être de l'inquiétude. Si elle va jusqu'au bout de ce référendum et que les Français votent en effet pour la sortie de l'euro, eh bien, on risque de se retrouver dans un scénario comme l'Argentine, il y a 15 ans. L'Argentine, ça a décroché du dollar, eh bien, ça a été appauvrissement des classes moyennes, des classes populaires, surinflation, taux de croissance atone, voire décroissance, chômage élevé. Et je ne veux pas que notre pays... L'euro, c'est pas le problème, elle se trompe de diagnostic. C'est les charges sur les entreprises le problème.
Voilà, Pierre Gattaz, président du MEDEF, ce soir sur France Info. Alors, Judith Vintraube, on l'a vu, là, elle a clairement parlé du franc, alors que longtemps, elle a hésité, on ne savait pas trop. C'était double monnaie. Oui. Aujourd'hui, ça semble pour elle très clair.
Oui, elle refait un pas dans cette direction-là. Bon, il reste 3 semaines.
C'est ça.
Elle fait toujours rétro-pédaler. Elle a un programme qui ne peut pas séduire les patrons de PME et de très grandes entreprises. C'est vraiment commerçant, artisan, le site du Nati pour les gens qui ont connu, c'est sa clientèle. D'ailleurs, c'est cette catégorie socio-professionnelle dans laquelle elle fait de très bons scores, des scores qui la rapprochent de ses scores dans les autres catégories. Mais alors, chez les patrons de PME et de grandes entreprises, ça marche pas du tout, pour la bonne raison que l'économie française est ouverte et qu'elle a besoin d'apporter pour fabriquer français.
Ouais, c'est ça.
C'est embêtant.
Je crois qu'elle n'était pas là pour ça aujourd'hui. En fait, elle était là juste pour montrer aux Français qu'elle était reçue comme les autres et que quelque part le débat économique, et on le voit ce soir, se fait aussi autour de ses propositions et autour d'elle. Mmh. Et c'est la seule chose finalement qu'on retient beaucoup plus que le contenu de ses mesures.
Oui, elle voulait être sur la photo, quoi.
Absolument. Alors, Christophe a dit juste une chose, on l'a entendu tout à l'heure par rapport à d'autres candidats qui se sont exprimés. Il y avait Emmanuel Macron, et c'est vrai que Pierre Gattaz, lui, semble vraiment avoir été plus charmé, on va dire ça comme ça, par François Fillon, par son programme. François Fillon, finalement, assez logique.
C'est logique, pour Pierre notamment Gattaz. Sur la baisse de la dépense publique, hein, donc François Fillon avec les 100 milliards d'euros d'économie, oui, c'est 100 milliards, celui qui va le plus loin, qui veut ramener la dépense publique à 49% du PIB, ce qui paraît d'ailleurs complètement délirant sur 5 ans, enfin personne n'y est jamais arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen, quand elle a taclé Pierre Gattaz, elle l'a taclé sur les contreparties au CICE.
CICE, exactement.
Et elle a beaucoup joué sur cette idée qui est assez répandue, que François Hollande a eu un vrai virage vers une politique de l'offre. Il a eu une politique très pro-entreprise après avoir d'abord commencé par augmenter la fiscalité en début de mandat. Et elle a joué sur ce côté, on a fait des cadeaux aux entreprises, on leur a donné une fiscalité beaucoup moins forte, on a baissé considérablement leurs charges et on n'a pas eu les créations d'emplois attendait, alors même que vous vous rappelez, Pierre Gattaz portait ce fameux pins, un million de créations d'emplois, et après il a dit qu'il pourrait même en créer 2 si on baissait plus les charges.
C'est intéressant parce que Marine Le Pen a effectivement tenu ce discours-là qui était exactement, pendant 5 ans, le discours des frondeurs.
Exactement.
Et exactement c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon.
Alors justement, à propos de ça, juste une question qui était un petit peu en dehors de cette audition, c'était Benoît Hamon n'y était pas puisque lui-même était à Berlin et il a parlé euro justement avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et moi j'ai juste une question. On a vu François Fillon aller rencontrer Angela Merkel. On a vu également Emmanuel Macron rencontrer Angela Merkel. Là, cette fois-ci, c'est Benoît Hamon. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il dénonce ses visites chez les chefs d'État étrangers. Il dit, finalement, on parle aujourd'hui de la campagne française. Est-ce qu'on a besoin d'aller en Allemagne pour vaudre aussi mieux?
Adoubé par l'Allemagne.
Parce que, est-ce que c'est adoubé? Jean-Luc Mélenchon dit qu'on s'est placé en position d'infériorité.
Voilà,
et de dire que pour prouver qu'on est important, il faut être reçu par Angela Merkel. Et donc, il dit que lui, il n'a pas besoin de ça. Et puis, en plus, surtout pas avec Angela Merkel, compte tenu de sa relation.
Passif entre les deux.
Voilà, précis entre lui et l'Allemagne en général. Voilà, mais il a aussi dit ça pour Marine Le Pen et Vladimir Poutine.
Bien sûr.
C'est aussi pour ça qu'il s'est exprimé sur la question des visites aux chefs d'État étrangers.
Mais Christophe a dit que ce voyage à Berlin,
Il a marqué un petit point quand même, Benoît Hamon, parce qu'il a reçu le soutien officiel de Martin Schulz.
Qui est
le candidat du SPD, qui a d'ailleurs, qui est un compétiteur très sérieux pour Angela Merkel pour les prochaines élections en Allemagne qui auront lieu en septembre. Et donc voilà, le SPD allemand, qui est un parti social-démocrate, moderne, de centre-gauche, très réaliste sur le plan économique, il n'a pas donné son soutien ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à Emmanuel Macron, il l'a donné à Benoît Hamon. Donc c'est une satisfaction pour Benoît Hamon.
Guillaume Jubin, aller rencontrer Angela Merkel, passage obligé pour une campagne, pour se crédibiliser aussi. Là,
tout
encore.
Dépend pour qui, j'ai envie de dire. Et je pense que Benoît Hamon, pour lui, c'était plutôt une erreur d'aller voir Angela Merkel. Je pense qu'il n'avait pas forcément à se positionner sur ce terrain-là. Ça a été un frondeur. Il a beaucoup critiqué l'arrimage de la France à une politique dite allemande, notamment politique monétaire de la BCE. Donc c'est un peu paradoxal aujourd'hui de le voir assis sur un petit coin de canapé avec Angela Merkel.
Oui, mais il a eu Martin Schulz.
L'image plus importante, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'était sans doute Martin Schulz, beaucoup plus qu'Angela Merkel. Là où, à mon avis, Jean-Luc Mélenchon est plus fin dans son choix de refuser finalement d'aller à Berlin, ce qui semble logique par rapport à son position.
C'est quand même l'homme qui a écrit le Aaron Bismarck, donc il reste fidèle à ses convictions de toujours. Il aborde ce que représente l'Allemagne en termes d'orthodoxie budgétaire. Enfin, pour lui, c'est vraiment le mal absolu, l'Allemagne d'Angela Merkel. Quant à Martin Schulz, l'argument que vous invoquez à juste titre en disant que Benoît Hamon n'avait pas forcément intérêt pour des raisons de cohérence politique à se montrer à côté d'Angela Merkel, il vaut aussi pour le SPD, qui est très très loin de partager les options du Parti socialiste français.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui,
juste les choix.
Oui, ça raccroche les wagons avec la gauche plus classique, justement, de France. Ça lui permet de raccrocher les wagons avec une gauche plus classique, dont justement...
Non, il aurait dû aller voir Jeremy Corbyn, par exemple. Ça aurait été plus cohérent.
Alors qu'il est le leader des travaillistes en Grande-Bretagne.
Et dont il se réclame.
Voilà.
Là, il est effectivement sans doute un peu plus proche.
Il ira peut-être à Londres.
Voilà. Mais une nouvelle fois, comme vous avez dit, c'est-à-dire que pour l'image quand même communication, Angela Merkel est plus populaire, plus connue. Ça fait une nouvelle fois Benoît Hamon qui cherche des accords, qui une nouvelle fois va chercher...
Qui essaye de se donner une stature internationale. Voilà, c'est le troisième candidat à la rencontrer. Et c'est vrai que on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, Angela Merkel est un petit peu considérée aujourd'hui comme la patronne de l'Europe.
Il tient un discours, la musique du discours de Benoît Hamon est européenne. Ses propositions me semblent à moi non compatibles avec l'Europe telle qu'elle est, mais en tout cas, il affiche une foi européenne, une volonté de continuer l'Europe, de pas l'arrêter, de pas la mettre par terre.
Et à la différence de Jean-Luc Mélenchon, il est dans une posture de dialogue avec l'Allemagne, pas dans une posture immédiate de bras de fer.
Ouais. Guillaume Jubin, juste parce que vous étiez notre envoyé spécial là-bas, alors juste pour terminer justement sur cette revue de candidats par les patrons, on a vu Pierre Gattaz choisir en gros François Fillon. Emmanuel Macron, comment a-t-il été accueilli lui-même ?
Emmanuel Macron a été bien accueilli de la même façon. Je crois qu'il y a eu en fait un accueil qui était relativement neutre. Hein. Après, on en dit ce qu'on en veut à l'extérieur, mais d'une certaine manière, tous les candidats ont été accueillis de la même façon avec pas mal d'intérêt, parce qu'il y avait pas mal de questions à leur poser. Et d'ailleurs, ce qui était assez nouveau, c'est que c'était des dirigeants d'entreprise qui posaient leurs questions eux-mêmes aux candidats. Ce qui est quand même un format assez nouveau. On a eu effectivement une petite présentation de chacun des candidats, mais ensuite on avait des dirigeants qui posaient des questions. Et ça, ce qui est un exercice différent de l'exercice classique où on est habitué à avoir un candidat qui vient présenter un programme puis s'en aller par la petite porte sans qu'on lui pose de questions.
Christophe Alexis.
J'ai vu d'ailleurs que Pierre Gattaz avait dit récemment qu'il se foutait d'avoir un président de gauche ou de droite, il voulait un président pro-entreprise.
Ben voilà, tout simplement. Ben c'est dit ce soir. Allez, dans un instant, on va parler de ceux qui sont déjà déçus par l'issue du premier tour qui n'a même pas eu lieu encore. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
L'Écosse va maintenant devoir obtenir l'accord de Londres pour pouvoir organiser la consultation, mais Nicola Sturgeon, la première ministre, a les mains libres. Les députés écossais votent pour un nouveau référendum d'indépendance. Le Parlement donne son accord à la veille du déclenchement du Brexit au Royaume-Uni. Benoît Hamon rassuré en visite à Berlin. Le candidat socialiste reçoit le soutien sans ambiguïté de Martin Schulz, le chef de file du SPD, le parti social-démocrate allemand, qui avait pourtant acclamé Emmanuel Macron lors de son congrès il y a 10 jours. Hamon a rencontré Schulz au siège du parti juste après son passage chez la chancelière allemande Angela Merkel. Le terroriste vénézuélien Carlos, condamné une nouvelle fois à la réclusion criminelle à perpétuité, Ilich Ramirez Sanchez, de son vrai nom, est reconnu coupable de l'attentat contre le drugstore Publicis qui avait fait 2 morts à Paris en 1974. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé la peine maximale. Carlos avait déjà été condamné 2 fois à la prison à vie dans 2 autres affaires terroristes. Plusieurs contre-attaques des djihadistes de l'État islamique dans le nord de la Syrie. Les soldats de Daesh tentent de bloquer l'offensive de l'alliance kurdo-arabe épaulée par la coalition, notamment les États-Unis. Les forces démocratiques syriennes encerclent progressivement Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe terroriste depuis 2014. Et puis un match amical pour l'équipe de France de football. Les Bleus reçoivent l'Espagne ce soir au Stade de France. Coup d'envoi dans un peu moins de 40 minutes maintenant à 21h.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir la journaliste Aude Rossigneux, le communicant Guillaume Jubin, Judith Vintraube du Figaro et Christophe Alix de Libération. Alors il paraît qu'un événement marque une génération au nombre de ces traumatisés. Pour l'après-présidentiel, on peut craindre le pire tant beaucoup d'électeurs sont déjà perdus avant même le premier tour. On parle de syndrome post-traumatique, là ça serait un syndrome pré-traumatique. traumatique. Selon un sondage Ipsos Radio France France Télévisions, on se dirigerait vers une abstention record le 23 avril prochain, puisque seuls 65% des électeurs interrogés ont l'intention d'aller voter, alors que normalement la présidentielle mobilise davantage. Alors hésitation à se rendre aux urnes, mais hésitation aussi quant aux candidats pour qui voter. 4 Français sur 10, certains d'aller voter, déclarent que leur choix pour le premier tour peut encore changer. Alors justement, Audrey Rossigneux, est-ce que finalement vous pensez que c'est le contexte actuel, le climat des affaires, les candidats ou la politique aujourd'hui tout court qui interroge?
Alors je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais je pense surtout qu'on a eu une campagne qui est tellement pleine de surprises que les gens savent plus où ils habitent. On attendait un candidat de droite, ça n'a pas été celui-là. On attendait un candidat de gauche, ça n'a pas été celui-là non plus. Après, le candidat de droite, on s'est dit peut-être qu'on allait le changer parce que c'était compliqué, etc. Il y avait un type que personne n'attendait qui déboule. Il y avait Marine Le Pen qui est en tête des sondages. Enfin, les gens savent plus quoi faire. Donc, évidemment, ils hésitent. Ils se disent, ah bah finalement, puisque c'est Hamon, il a l'air quand même d'être assez de gauche pour un type du PS. Donc, je vais peut-être pas voter Mélenchon. Mais en même temps, si je vote pas Mélenchon, qu'est-ce que ça fait? Enfin, les gens sont dans des...
Il se passe des choses chez vous le soir, votre signeur. C'est incroyable. Ah ouais,
mais moi, j'ai des amis qui se posent des questions. Non, mais les gens sont un peu dans des calculs. Je pose 2, je retiens 3. Et alors, le risque du Front National. Et alors, du coup, qu'est-ce que je fais pour le deuxième tour? Il y a aussi un vote très stratégique. Donc, les gens ne savent pas pour qui ils vont voter. Et donc, quand on ne sait pas pour qui on va voter, parfois, on se dit, je ne veux pas voter du tout.
Ils n'ont pas envie qu'on leur dise pour qui voter.
Voilà, pour vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression que beaucoup d'électeurs aujourd'hui sont perdus, s'interrogent, en fait. Finalement.
Oui, tout à fait. Puis en plus, dans sa chronologie, Aude a oublié la première surprise du chef qui était François Hollande. Renonce à se présenter. Là,
et il y avait, on attendait Cécile Duflot et on a eu.
C'était le début.
C'était une moindre surprise. Je ne suis pas sûr que la fac soit tout à fait comparable.
Mais quand on voit.
Je ne veux pas être désagréable avec Cécile Duflot.
D'accord, mais moi aussi dans ma chronologie.
Je suis d'un trou, parce qu'il est assez étonnant. C'est vrai qu'on voit la présidentielle, qui est un scrutin généralement où les Français se mobilisent. Là, on a l'impression qu'en effet, ils se disent finalement, pour qui voter, on ne sait pas, ça devient compliqué, on n'arrive plus à saisir.
Oui, absolument. Et ce qui se conçoit bien, c'est donc clairement, hein, et ce qui vaut pour l'écrit vaut aussi pour les enjeux politiques, pour la présidentielle. Par rapport à la masse des gens qui vont au meeting, apparemment nombreux, parce que beaucoup de meetings font plein, tout candidat confondu. La plupart des gens, quand même, entendent parler des candidats par la télévision. Or, la partie télévisée de cette campagne est complètement absconce. Ou alors, ça ne parle que des affaires, ou alors ça part dans des débats effectivement stratégiques de positionnement auxquels il est impossible de comprendre quoi que ce soit si on n'a pas fait un travail de quelques heures avant pour se renseigner sur les programmes de chacun. Donc, rien n'est fait pour contribuer à la clarté de la chose.
Guillaume Jubin, on voit justement dans cette étude que parmi les principaux candidats, en fait, on observe une grande volatilité chez les électeurs, notamment chez ceux de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron. Il y a des socles plus sûrs pour François Fillon et Marine Le Pen. Pourquoi ça, justement? C'est-à-dire que les gens sont dans le doute, justement.
Je pense qu'une partie des électeurs ont envie de mettre fin, d'une certaine manière, à ce qu'on considère comme un système, en tout cas, qui fonctionne depuis de nombreuses années. Et ces électeurs-là, on les retrouve chez, je dirais, ceux qui ne sont pas les candidats habituels ou auxquels on a eu l'habitude de faire confiance dans les précédentes élections. Donc, d'une certaine manière, on retrouve ces questions, ces doutes et cette défiance à l'égard du politique qui s'exprime chez ces candidats. Et je crois qu'en plus, il y a un élément qui est fort, qui ressort, contrairement à ce qu'on imaginait, il n'y a pas vraiment de volonté de vote utile. Parce que finalement, le fait qu'il y a un vote blanc très important, ça veut bien dire que les Français n'ont pas du tout décidé
de faire
un vote
utile. Pour vous, le vote utile, c'est juste une histoire de politique, c'est ça qui donne
le vote utile, qu'on cherche un prétexte pour aller vers les candidats qu'on parle souvent. D'une certaine manière, on voit que ça ne marche pas. Et je crois que le pire pour les candidats, ce serait de vouloir absolument que les Français, vouloir obliger, je dirais, les Français quasiment à voter pour un candidat. C'est l'effet va être contraire. On l'a vu dans d'autres élections et ce sera la même chose cette fois-ci.
Ouais, Christophe Alix, on voit aussi, quand je parle de classe politique, on voit quand même aujourd'hui un rejet, notamment des plus jeunes, de cette classe politique, c'est-à-dire qu'ils ne la comprennent pas, enfin voilà, ils se disent, mais à qui ils s'adressent, en fait, véritablement. Il y a aussi ça, dans ce rejet.
Oui, c'est certain que les plus jeunes, quand on vit à l'ère de, je sais pas, de l'Internet, d'une forme aussi d'instantanéité dans les médias, dans les nouveaux usages qu'on voit apparaître aujourd'hui, cette élection présidentielle, elle peut avoir un côté complètement un petit peu suranné. D'ailleurs, on voit bien que tout le monde s'interroge sur un petit peu est-ce que aussi cette figure du président sacralisée, etc., est-ce que c'est encore quelque chose aujourd'hui qui est en phase avec notre époque, de personnaliser à ce point-là le combat politique. Et en même temps, d'ailleurs, on voit bien qu'un de ceux qui dénonce cette personnalisation, ce pouvoir fort de la Ve République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en ce moment, Jean-Luc Mélenchon, il est en train de monter. Et il monte grâce à cette personnalisation du pouvoir.
Ça vous amuse,
donc, non, parce que, ce que dit Christophe est tout à fait logique. Donc j'attendais la suite de la phrase. Effectivement, il y a un culte de la personnalité entretenu par Jean-Luc Mélenchon.
Mais pas que lui. Pas Benoît Hamon, par exemple, sûr.
Mais qui va avec sa dénonciation du système post-monarchique de la Ve République.
On va continuer à en parler dans un instant, justement, de ces abstentionnistes et du vote blanc. On va parler également de ce débat donc à 11, le 20 avril prochain, qui ne se fera peut-être pas. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à dire. C'est la suite des informés de France Info.
Ah tiens, j'ai revendu ma Mini.
Pourquoi ?
J'ai trouvé mieux.
Mais non.
Toit au vent, GPS, Bluetooth, radar de recul.
Ok, t'as hérité ?
Non, 295 euros par mois.
Mais c'est quelle voiture ?
L'édition Mini Shoreditch.
D'accord.
Vous aussi, surprenez vos amis avec l'édition spéciale Mini Shoreditch à partir de 295 euros par mois, sans apport sur 36 mois, entretien inclus.
Méné.
Exemple pour l'édition Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée. Valable jusqu'au 31 mai 2017 sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
Téléchargez la nouvelle application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et recevez des alertes pour rester connecté à l'actualité.
France Info. France Info Météo avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Nuages au nord de la Loire, demain soleil au sud, de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central, l'Alsace, Rhône-Alpes, la Méditerranée. Un beau soleil, un peu de brouillard possible dans le nord-est en début de journée. De la Vendée à l'Orléanais, ce sera parfois nuageux le matin, bien ensoleillé l'après-midi. Et puis de la Bretagne vers la Normandie, la région parisienne, le Pas-de-Calais, les Ardennes. Il faudra composer avec les nuages, souvent très nombreux le matin, mais ils se morcelleront l'après-midi pour laisser passer des éclaircies. On ajoute du vent, ça soufflera le long de la Manche jusqu'à 50 km à l'heure. Côté température, le printemps va s'affirmer. Le matin, 4 degrés à Besançon et Limoges, 6 à Lyon, Toulouse, Strasbourg, 9 à Paris et Toulon, 10 degrés à Cherbourg. L'après-midi, 15 à 19 degrés le long de la Manche, 20 à Paris, Nantes, Dijon, 21 à Strasbourg, Limoges et Lyon, 22 à Montpellier, 23 pour Bordeaux et pour Nîmes. Jeudi, il fera beau et chaud, une moyenne de 23-24 degrés l'après-midi.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir, deuxième journée de grève générale et journée morte en Guyane. Première démonstration de rue au-delà des barrages, 8 à 10 000 personnes rassemblées à Cayenne, 3 500 à 4 000 à Saint-Laurent-du-Maroni. Sur les 250 000 habitants que compte le département, la préfecture parle de la plus grosse manifestation jamais organisée sur le territoire. Les Guyanais réclament plus de moyens pour l'éducation et la sécurité. Manuel Valls fait un pas de plus vers un soutien à Emmanuel Macron. Devant ses soutiens parlementaires, l'ancien Premier ministre a estimé que la faiblesse de Benoît Hamon, le candidat PS, nécessitait de prendre ses responsabilités. Fin de citation. C'est un symbole fort que vient d'afficher l'Université de Namur en Belgique. Elle a élu à sa tête un scientifique syrien de renommée internationale, diplômé de l'Université de Damas. Le tout nouveau recteur vit en Europe depuis les années 80. À Bruxelles pour France Info, Pierre Benazé.
Il s'appelle Naji Habra et son élection à la tête de l'université de Namur est présentée en Belgique comme une petite révolution. Mais c'est surtout parce que pour la première fois, elle a eu lieu au suffrage universel. Des étudiants, des personnels administratifs et des quelques 285 professeurs dont les voix pèsent à elles seules l'équivalent de 3/5 des suffrages. Naji Habra, enseignant à l'université de Namur depuis 32 ans, a donc été élu avec plus de 53% des voix. Il était déjà vice-recteur de l'université et le curriculum vitae de ce docteur en sciences, ingénieur en construction et en informatique est long comme le bras, riche de dizaines d'articles scientifiques, en particulier sur les logiciels. Adepte de la marche à pied et de l'écriture de nouvelles, il n'évoque pas souvent ses origines, sauf pour dire qu'il a quitté la Syrie au début des années 80 pour trouver un avenir meilleur à travers ses études. De ses origines, il garde tout de même un attachement à l'Orient, puisqu'il a par exemple accueilli, il y a quelques mois à Namur, le patriarche de l'Église catholique syriaque. Bruxelles, Pierre Benazet, France Info.
Le ministère chinois des Affaires étrangères convoque le consul général de France à Pékin après la mort d'un Chinois. Il a été tué dimanche à Paris dans des conditions encore troubles lors d'une opération de police. Une enquête est lancée. Le préfet de police reçoit ce soir les représentants de la communauté chinoise. Un nouveau front dans la crise germano-turque. La justice allemande ouvre une enquête contre X sur des soupçons d'espionnage de la part de la Turquie envers des partisans du prédicateur Fethullah Gulen en Allemagne, accusé du putsch raté de l'été dernier en Tunisie. Et puis du football avec l'équipe de France rajeunie qui se prépare à une soirée de gala face à l'Espagne. Match amical ce soir au Stade de France à Saint-Denis à partir de 21h avec une première en France. L'arbitrage vidéo à suivre évidemment sur France Info. Il est 20h33. Voici les informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, ils sont en forme, ils sont fresh, comme on dit. Hein. Et nous retrouvons autour de la table des informés de France Info, la journaliste Aude Rossigneux, le communicant Guillaume Jubin, Judith Vintraube du Figaro et Christophe Alix de Libération. On a parlé d'un précédent sondage, hein, Radio France, France Télévisions, et le mardi, c'est définitivement le jour des études, puisqu'après celle sur l'indécision des électeurs, une autre étude nous apprend qu'un vote pourrait réunir beaucoup, beaucoup de suffrages. C'est celui du vote blanc. Il serait 40% hein, à vouloir mettre un bulletin blanc dans l'urne hein, cette fois-ci. Possible qu'ils obtiennent une vraie reconnaissance un jour. Alors il y a même un parti du vote blanc avec des candidats, et oui. Et ce ne serait en rien contradictoire selon Florian Desmaies. Il est membre du bureau politique du parti du vote blanc.
Derrière, il y a quand même un projet, parce que pour nous, la reconnaissance du vote blanc, par extension, c'est l'idée de la démocratie participative. C'est l'idée qu'on écoute plus les citoyens. C'est pourquoi on est présent aux élections législatives. On demande à l'ensemble des citoyens qui voudraient justement représenter tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui sont désespérés même dégoûté de la politique, permettre à l'ensemble à cette masse de gens qui voudraient être représentés justement et qui ne le sont pas.
Voilà, Florian Desmaies, donc du parti du vote blanc. Judith Vintraube, c'est vrai que le vote blanc, ça revient souvent sur l'actualité. Est-ce que ça serait important aujourd'hui, comme certains candidats, par exemple Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, qui souhaitent le reconnaître officiellement, le vote blanc, le comptabiliser surtout, c'est ça?
Oui, enfin, c'est le comptabiliser. Parce qu'une fois qu'on mettons que le vote blanc soit le candidat qui a obtenu le plus de suffrages, qu'est-ce qu'on fait? On a lu l'élection. Quelle est la conséquence pratique du vote blanc par rapport à l'abstention?
On fait un deuxième tour avec celui qui arrive après.
À partir d'un certain pourcentage de vote blanc, l'élection soit annulée.
Voilà. Mais alors,
jusqu'à quand on revote?
Oui, effectivement.
C'est ça. Non, bien sûr. Une présidentielle est un choix relatif. C'est pas un choix absolu. On choisit le meilleur ou le moins mauvais d'entre les candidats et candidates qui se présentent. Et c'est une notion que le vote blanc n'a pas l'air de prendre en compte.
Alors Guillaume Jubin, le vote blanc, il est reconnu, ouais. Il n'est pas comptabilisé aujourd'hui. Certains disent finalement qu'en 2014, quand on l'a reconnu, c'était pour lutter contre l'abstention. On voit que l'effet n'est pas terrible dessus. Pour vous, est-ce que c'était ça finalement le premier objectif du vote blanc, c'est de dire bon, les gens certes vont pas se déplacer, mais au moins bon bah
Le premier objectif, il était de montrer qu'on comprenait qu'il y avait un problème aujourd'hui, je dirais, de représentativité pour les Français et, d'une certaine manière, une espèce de défiance à l'égard des scrutins qui s'enchaînaient. Pour autant, je crois que c'est un peu comme le débat sur le vote obligatoire, c'est un peu des serpents de mer qui reviennent de façon récurrente dans le débat pour montrer qu'on a compris qu'il y avait une défiance, mais qui finalement ne change rien et ne règle aucun problème. On le voit bien, d'ailleurs, ça ne change rien aujourd'hui sur le papier.
Oui, Aude Rossigneux.
Moi, surtout, je vois pas la plus-value. Très honnêtement, entre le fait de ne pas se déplacer et le fait d'aller voter blanc.
C'est pas du tout la même chose, quand même.
Mais c'est pas exactement la même chose.
Ça veut dire quoi qu'on valide le système électoral, mais qu'on valide pas les candidats?
À peu près. Bah, non, mais c'est à peu près ça.
C'est une manière de dire. C'est aussi une manière de dire. J'ai une offre politique, en fait. que le personnel politique a tendance à considérer comme globale, complète, allant de l'extrême droite à l'extrême gauche.
C'est fini ça.
Et là, alors, elle dit non. Il y a mon choix. Oui, mais
l'abstention revient au même. Voilà. Il ne faut pas exclure quand même une certaine démagogie dans les gens qui proposent de faire reconnaître le vote
blanc. Vrai,
je ne parle pas de ce jeune homme qu'on a vu qui, à un moment donné, n'est pas démagogue.
J'ai vu que le vote blanc était reconnu et existait en Suède.
Ah bien sûr.
Et en moyenne. Donc, c'est aussi... en moyenne, sur le long terme, c'est 2%.
Oui, c'est
2%,
ça.
C'est quand
alors,
même pas...
Est-ce que cette question, finalement, a encore un intérêt quand on voit des candidats, justement, comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, qui aujourd'hui sont hors parti, qui ont créé leur mouvement, leur sorte de start-up électorale, est-ce que, finalement, ça a encore un intérêt de se poser cette question, puisqu'on voit que c'est la fin, presque la décrépitude des partis politiques traditionnels, non, Julie Vintraube, aujourd'hui?
Non, parce que ça entraîne d'autres questions, mais on met beaucoup en cause ces temps-ci le système des primaires, en remarquant que les deux candidats qui figurent parmi les finalistes les plus probables, d'après les sondages, ne sont pas issus de primaires. Que ce soit Marine Le Pen, parce qu'elle était seule candidate et qu'il n'y a jamais eu de primaire au Front National, ou que ce soit Emmanuel Macron, parce qu'il est candidat hors primaire. Mais il ne faut pas confondre la mécanique et les réalités politiques. Une mécanique aussi parfaite soit-elle ne peut pas changer la réalité politique.
C'est ça. Audrey Rossigneux, finalement, aujourd'hui, quand on s'interroge finalement sur les manières, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup aujourd'hui d'interrogations autour des manières de faire, d'élire, de représenter. On voit très bien, par exemple, beaucoup de candidats se disent, alors je ne sais pas si c'est de la démagogie ou pas, mais que les citoyens devraient participer davantage.
C'en est. Voilà, je vous rassure, c'en est.
Alors voilà, c'est-à-dire, vous voyez, des référendums, etc., ce fameux référendum que tous les candidats proposent et qu'ils n'appliquent jamais.
Oui, le 49-3 citoyen qui est proposé
par Benoît Hamon, etc.
Bien sûr. Mais je pense qu'il y a une volonté, il y a aussi une volonté des électeurs de participer à la vie, à la vie politique. Simplement, ils se sentent sans doute privés de leur voix d'une façon ou d'une autre, mais ils ne trouvent pas de réponse dans l'offre politique qui leur est proposée. Oui. Et effectivement, c'est facile de dire, dans ce cas-là, vous allez pouvoir voter pour moi et après vous discuterez. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas forcément autre chose que démago.
On parlait des jeunes tout à l'heure. Bon, alors, les jeunes, justement, je disais qu'ils étaient très connectés. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois ici des fameux mouvements autour des civic tech, etc. Et donc il y a quand même tout un courant aujourd'hui, alors avec des idées qui sont parfois très farfelues, mais où on voit bien que la technologie peut aujourd'hui un petit peu changer aussi la manière de s'impliquer, de participer à la politique. Alors ça va pas tout résoudre, mais on voit peut-être que
quand vous voyez par exemple certains candidats qui ont fait des programmes participatifs,
il faudrait peut-être plus parfois être en phase justement avec cette jeune génération qui et vivre un petit peu avec les outils de son temps. Je pense par ailleurs que l'abstention et le vote blanc, ça a au moins un avantage, c'est de montrer aux hommes politiques que cette onction du suffrage universel qu'ils ont tendance un petit peu à croire absolu à chaque fois qu'ils sont élus, à ramener un peu les pieds sur terre en leur montrant bien que finalement, ça n'est qu'une partie relative du corps électoral et des Français qui ont voté pour eux.
Allez, dans un instant, on va se poser la question si l'onction du débat, elle, est-elle absolue. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
L'ONU avance un premier bilan des civils morts dans les combats à Mossoul Ouest ces dernières semaines. Au moins 307 Irakiens tués et 273 autres blessés entre le 17 février et la semaine dernière. Les Nations Unies n'attribuent pas ce bilan à l'une ou l'autre des parties du conflit. Mais Amnesty International dénonce et accuse aujourd'hui les frappes de la coalition qui aurait tué des centaines de civils chez eux depuis le début de l'offensive. Coalition probablement impliquée, admet ce soir un général américain. Manifestation massive en Guyane ce matin, respectivement 8000 et 3500 personnes à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, alors que le territoire ne compte que 250 000 habitants. Journée morte au deuxième jour de la grève générale qui touche la Guyane. À Cayenne, les 500 frères, mouvement de citoyens cagoulés, créé récemment pour lutter contre l'insécurité, ont ouvert le cortège. Le tribunal de commerce de Bobigny valide la liquidation partielle de l'enseigne de mode à petit prix Mime. Coup dur pour les salariés, dont 800 risquent de se retrouver au chômage. L'enseigne était placée en redressement judiciaire depuis novembre. Une enseigne suisse devrait reprendre 71 points de vente sur les 233 magasins en France. C'est une information de nos confrères de France Bleu et France 3. Violente altercation entre lycéens tout à l'heure à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Deux blessés graves. L'un a reçu un coup de couteau, l'autre des coups de batte de baseball. Le motif de la bagarre est encore assez flou. Les deux blessés ont 17 et 19 ans, leurs jours ne sont pas en danger.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, dernier petit rebondissement dans cette campagne présidentielle et nouvelle expression après les pudeurs de gazelle. Jean-Luc Mélenchon évoque de la chair à buzz. Cette chair à buzz, c'est lui et les 10 autres candidats qui seraient ainsi traités par les médias et les émissions politiques en tout genre. Dans un texte publié sur son blog, le candidat de la France Insoumise annonce ne pas vouloir participer au débat du 20 avril sur France 2, car trop près du premier tour et de ses occupations de candidat. Quelques heures plus tard, c'est Emmanuel Macron qui lui aussi ne veut plus débattre le 20 et il en a averti le proviseur même, Emmanuel Macron.
Notre fonction est telle de tourner chaîne après chaîne devant toutes les télévisions, je n'en suis pas persuadé. Et donc pour ma part, je souhaite m'en remettre au CSA, dont c'est la fonction d'une part d'assurer le pluralisme de notre vie politique et d'autre part d'organiser la vie médiatique et l'organisation entre les chaînes. Pour ma part, je souhaite m'en remettre au CSA et je souhaite que le CSA puisse mettre autour de la table l'ensemble des chaînes pour que nous ayons un débat. Et un débat suffira à 11, et en tout cas pas un débat de dernière minute, en effet.
Voilà le candidat donc d'En Marche, Emmanuel Macron. Alors ce n'est pas un candidat, c'est pas un débat de dernière minute, hein, puisque France Télévisions l'avait annoncé dès que TF1 lui-même aussi avait annoncé son débat. Justement, on est quand même dans cette histoire aujourd'hui, Guillaume Jubin. On se demande, là, est-ce que c'est une histoire de date ou un deuxième débat à 11, ou alors un moment de prendre un risque, justement, de se dire trois jours avant le premier tour, qu'est-ce qu'on...
Voilà. En fait, c'est la dernière étape du rapport de force entre les candidats et les médias. On voit ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, c'est que aujourd'hui, certains candidats n'hésitent pas à rentrer dans une bataille, voire même dans un combat, contre les journalistes et contre les médias, et d'une certaine manière de montrer que on ne se laisse pas imposer son timing et son agenda de campagne par les médias, c'est de montrer aux Français qu'on n'est pas otage des médias. Et aujourd'hui, compte tenu du climat qu'on peut imaginer et voir dans la campagne, c'est plutôt un point positif que je pense ces candidats espèrent de leurs électeurs.
Et Audrey Rossigneux, pour vous, ça vous a surpris finalement aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon finalement se dise tiens non, j'irai pas?
Ça me surprend pas parce que sa défiance à l'égard des médias effectivement est assez porteuse et que c'est quelque chose qui est assez porteur d'une façon générale. Je pense pas qu'il ait grand chose à perdre dans cette histoire, ouais. Parce qu'il est plutôt bon, il le sait, et alors effectivement, il veut pas être de la chair à buzz. Moi, je pense surtout à nos confrères de France 2 qui doivent se demander comment ils vont faire avec effectivement leur meilleur acteur et puis le chouchou, quoi.
C'est-à-dire voilà,
et puis l'un des favoris, voilà, le chouchou. En tout cas, ils vont se retrouver à un débat à 11 qui se fait à 9 sans deux personnes sur lesquelles ils comptaient beaucoup.
Alors c'est ça qui est assez étonnant quand même, Judith Vintraud, parce que c'est sûr, Jean-Luc Mélenchon parle de chair à buzz, mais France Télévisions lui a répondu, je vais juste citer, ils lui ont répondu en ces termes: comme tous les candidats déclarés, M. Mélenchon a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'un message mail le 31 janvier l'invitant au débat du 20 avril. Il n'y a eu alors aucune contestation de sa part ni du débat de la date proposée. Donc c'est quoi il fait? Donc c'est en effet vraiment un buzz.
Oui, enfin il se sert de ça, mais il faut lire tout le texte de Jean-Luc Mélenchon, oui. Parce qu'il ne se contente pas de mettre en cause la date du débat. Dernière minute, ça ne veut pas dire je viens d'être prévenu, ça veut dire trop peu de temps avant le second tour, il le dit d'ailleurs comme ça, avant le premier tour, pardon, ouais. Pour pouvoir éventuellement rattraper une bourde ou redresser une erreur si jamais ça se passait très mal pour lui, ce qui n'a pas été le cas effectivement dans le premier débat. Mais dans son texte, il met en cause France 2, notamment l'émission politique de François Fillon, puisqu'il parle du traitement infligé, y compris à son adversaire, comme d'une mise à mort. Et je crois même qu'il dit l'immonde émission politique de France 2. Donc il en a gros sur la patate contre France 2.
Alors il le dit après avoir participé.
Après avoir participé. Mais en plus, ça coïncide avec quand même le sentiment qu'on une majorité de téléspectateurs et qui l'ont exprimé d'ailleurs dans un sondage sur le traitement. On les invitait à juger le traitement médiatique réservé aux candidats, notamment à Fillon et à Macron. Il y avait une grosse différence selon eux. Fillon était injustement traité et Macron était trop favorisé. Après cette émission politique de Fillon, l'avis majoritaire des sondés était que Fillon vraiment avait servi pour le coup de chair à buzz.
C'est révélateur, c'est-à-dire que maintenant on fait des sondages sur le traitement médiatique. Donc on voit bien qu'on est vraiment, voilà, on est dans un autre débat aujourd'hui. C'est la façon dont les médias gèrent leurs relations avec les politiques ou les politiques gèrent leurs relations avec les médias.
Vous trouvez pas que c'est une vraie question?
C'est une vraie question, mais c'est vrai que donc le débat s'est déplacé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la question de savoir si la place est ou pas sur un plateau, mais de savoir s'il a été bien ou maltraité, ce qui était totalement différent de ce qu'on évoquait auparavant.
Christophe Alix, c'est ça aussi. Alors, est-ce que finalement, ce que dénonce, là, on l'a entendu tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui a emboîté le pas de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus, lui, le débat à 11, en fait, finalement. Il se dit, un débat à 11, un, ça suffit. Est-ce que c'est pas un peu de mépris pour les autres aussi, candidats?
C'est peut-être un peu de mépris pour les autres candidats. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan a d'ailleurs dit que tous les deux voulaient se dérober au débat.
C'est ça.
Il y a quand même une chose, c'est que deux débats à 11, à ma connaissance, c'est inédit.
Oui, mais même un débat à 11.
Oui, c'est jamais. Même un débat à 11. Et un débat à 3 jours du second tour, ou si je ne me trompe pas, il leur restera 24 heures après pour continuer avant de faire campagne, avant de devoir se taire pour les 48 dernières heures. C'est également inédit. Alors, peut-être que leur erreur, c'est de ne pas avoir dit plus tôt à France 2 que la date n'était peut-être pas très bien choisie. Mais enfin, le timing, quand même...
Pose question
et permet quand même d'avoir des interrogations légitimes sur l'intérêt de ce débat à 3 jours de la fin du scrutin, en partant de l'idée qu'il y en aura déjà eu un autre avant.
C'est ça. Audrey Signeul.
J'ajoute que le 31 janvier, au moment où ils ont reçu leur lettre recommandée avec avis de réception doublé d'un mail, etc., tous les candidats n'étaient pas déclarés, en tout cas n'avaient pas été validés par le Conseil constitutionnel. Donc ça pouvait laisser planer un doute, et on ne pouvait pas considérer ça, à mon avis, comme acquis absolument.
Mais on peut penser qu'Emmanuel Macron va y aller. On peut penser qu'il va y aller, parce qu'il a quand même plus à perdre à ne pas y aller qu'à refuser.
Donc, il est le favori.
On peut imaginer que le fait de refuser le débat soit pire, en tous les cas, que d'y être.
On voit le côté raisonnable. Macron, il critique, mais il joue pas le rebelle. Alors que Mélenchon, lui, va jusqu'au bout.
Mais Mélenchon, il s'en fiche de passer pour le schtroumpf grognon.
C'est son personnage. C'est le rôle pour lui-même distribué.
Donc Macron, c'est rebelle, mais pas trop.
Une chose de Gilles Dumas-Trouve, Benoît Hamon, François Fillon, eux, ils ont encore plus de débats dans les pattes, puisque chacun a fait la primaire. Eux, ce qui compte finalement, encore profiter de ces débats qui, à l'époque, on se souvient, à l'automne pour Fillon, au mois de janvier pour Hamon, les avaient portés. Ils se disent, finalement, on peut peut-être en profiter encore.
Évidemment. Oui. Évidemment. Il faut préciser quand même dans le cas d'Emmanuel Macron que lui a toujours été réticent sur le principe de ces débats-là, dès le début. Le premier, je trouve, s'est très bien passé pour lui. En tout cas, il a montré qu'il était tout à fait capable de réagir et de bien réagir face à des contradicteurs. Ouais. On ne l'avait jamais vu en situation face à des contradicteurs. Mais depuis le début, il trouvait que les débats, ce n'était pas son truc.
Ouais. Guillaume Jubin, vous-même, vous l'attendez de voir à quoi ça peut ressembler à 11. Certains candidats disent que ça a davantage faire un spectacle qu'une émission politique, mais en même temps...
Ça risque de ressembler au débat qu'il y a eu au premier tour des primaires. Il y avait 6 ou 7 candidats de mémoire. 11, ça sera 4 de plus, mais on peut imaginer que ça va être effectivement un peu cet aspect couloir. Chacun dans son couloir déroule ses propositions et une profession de foi à la fin. Ça risque d'être assez académique comme prestation.
Ça risque de pas être un vrai débat.
Voilà. En tout cas, ça sera donc ce premier débat à 11, mercredi prochain, 4 avril, sur BFM et CNews. Allez, dans un instant, nous, on va partir en Guyane. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Donald Trump continue de détricoter les mesures de Barack Obama. Le président des États-Unis vient de signer un décret abrogeant la réglementation mise en place par son prédécesseur pour limiter le réchauffement climatique. Trump dit ainsi mettre un terme à ce qu'il appelle la guerre contre le charbon. En clair, il veut en finir avec les restrictions dans le domaine de l'énergie qui ont détruit beaucoup d'emplois, selon lui. Les députés écossais donnent leur feu vert à un nouveau référendum d'indépendance en Écosse qui pourrait bien briser le Royaume-Uni. Le vote devait avoir lieu la semaine dernière, mais avec l'attaque de Londres, les travaux parlementaires avaient été suspendus au Royaume-Uni. Hasard du calendrier, donc nous sommes aujourd'hui à la veille du déclenchement du Brexit par la Première ministre Theresa May. Convaincre les patrons, 4 candidats à la présidentielle auditionnés sur leurs programmes économiques par des entrepreneurs réunis par les organisations patronales, dont le MEDEF, François Fillon, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade et Marine Le Pen. La candidate du FN a notamment défendu devant un auditoire plutôt hostile son projet de sortie de l'euro, tout comme le candidat du parti Solidarité et Progrès. Carlos doit faire appel de sa nouvelle condamnation. Le terroriste vénézuélien écope d'une 3e peine de prison à perpétuité pour l'attentat du drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain
Saint-Germain. L'attaque à la grenade avait fait 2 morts et 34 blessés en septembre 1974. Avant l'énoncé du verdict, Carlos a dénoncé un procès absurde. Ses avocats avaient plaidé l'acquittement.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et pendant ce temps-là, la Guyane continue à protester après une première journée décevante pour les syndicats. La deuxième journée, dite journée morte, a réuni davantage de monde. La préfecture parle de plus grosses manifestations jamais organisées sur le territoire et continue donc à interroger le gouvernement. Après l'annonce de l'envoi d'une mission interministérielle en fin de semaine, la tension est toujours palpable et les revendications, eh bien, toujours diverses. Insécurité, chômage, éducation. La Guyane, c'est la France, c'est même la deuxième plus grande région française et beaucoup d'habitants sur place ont l'impression de ne pas être traités comme les habitants de la métropole. Ils demandent à agir vite. Audrey Signeux, rapidement, est-ce qu'il peut y avoir finalement, concernant la Guyane, des réponses rapides quand on voit aujourd'hui la situation ?
Bah, compte tenu de l'étendue du problème, il peut y avoir une réponse, l'annonce de réponse, mais une annonce rapide de réponse, mais des réponses rapides, surtout dans une période électorale où on est déjà, on doit d'abord attendre le nouveau président de la République, puis le nouveau Parlement, en tout cas la nouvelle Assemblée nationale. Je suis pas sûr que des réponses rapides et immédiates soient envisageables tout de suite là maintenant.
On vient juste d'apprendre que le ministre de l'Intérieur et la ministre Dom-Tom donc qui iront sur place mercredi, donc c'est-à-dire dès demain en fait. En Guyane. Donc pour prendre justement des mesures assez vite, comme le demandait finalement aussi Julie Vintraube, ces rencontres avec des ministres et non pas, c'est une interministérielle, c'est aux fonctionnaires qui étaient allés sur place.
Oui, finalement, on est à 3 semaines de la présidentielle, donc la demande des syndicalistes, des 37 syndicats qui bloquent la Guyane a été acceptée après que Bernard Cazeneuve a posé des tas de conditions. Non, nous n'irons pas, nous ne céderons pas. Il a fait la mission interministérielle sur place, a fait des tas de promesses d'équipement et puis les ministres viennent. On est à 3 semaines de la présidence.
Guillaume Jubin, juste une chose, on se souvient, alors justement, tout à l'heure, on parlait un sentiment un peu de mépris aussi de la part des habitants sur place, puisqu'en 96, il y avait une grève qui avait éclaté dans l'enseignement public guyanais et à l'époque, c'était François Bayrou qui était ministre de l'Éducation nationale et qui on avait envoyé, eh bien, un haut fonctionnaire également. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, finalement, ils n'ont pas l'interlocuteur principal.
Absolument. Alors là, c'est vrai qu'on est dans un contexte particulier, en pleine campagne présidentielle. Mais on peut imaginer aussi que ce mouvement naît parce qu'on est en campagne présidentielle, qui fait caisse de résonance en France. Et on voit bien d'ailleurs qu'immédiatement, tous les candidats à la présidentielle ont pris position. Évidemment, ont pris position sur ce qui se passait, sur ce territoire. Donc effectivement, qui est loin, et vous avez raison évidemment, qui est un territoire français, mais qui est très loin. C'est un petit morceau de France quand même qui est très très loin pour tout le monde, y compris pour les candidats. Ils s'invitent dans la campagne et c'est sans doute la meilleure façon pour eux de faire parler de leurs revendications. Et on voit d'ailleurs que ça marche très bien parce que tous les candidats ont réagi et certains, pour comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, en ont même fait une caisse de résonance pour leurs propres propositions, pas seulement pour la Guyane, mais aussi pour le territoire métropolitain.
Oui, la Guyane a obligé tous les candidats à la présidentielle à raccrocher les wagons à la question guyanaise.
En tout cas. Ça a obligé aussi Christophe Alix de voir certains chiffres qui sont assez effrayants.
Les chiffres sont fous.
46 000 personnes qui n'ont pas d'accès direct à un service d'eau potable. Taux de chômage est de 22,3%, soit plus de 2 fois que la métropole. Plus de précaires, vie plus élevée. Enfin, voilà, c'est
44% de salaire moyen inférieur à la métropole, 12% de bacheliers. Enfin, c'est
trois hôpitaux pour la même superficie que l'Autriche.
Voilà. Enfin, quand on voit les chiffres, 42 homicides l'année dernière pour 250 000 habitants, le plus fort taux de France. Enfin, quand on voit les chiffres, quand même, on comprend qu'il y a que la situation est absolument gravissime. Moi, j'ai lu qu'apparemment, il y avait un petit peu des choses qui avaient commencé à être faites ces dernières années, mais qu'apparemment, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la dépense publique et l'investissement public avaient vraiment été au point mort en Guyane. Non, moi, ce qui me marque aussi, c'est que effectivement, il y a les syndicats, il y a ces 500 frères. Mais on voit aussi, moi j'ai vu cet après-midi, le MEDEF de Guyane, le MEDEF de Guadeloupe, de Martinique, etc. Enfin, on sent qu'il y a quand même une forme d'unanimisme dans ce mouvement. C'est un mouvement qui vraiment réunit toute la population guyanaise. Et d'ailleurs, les deux manifestations qu'il y a eu aujourd'hui, c'est les plus grandes manifestations qui n'ont jamais exactement. C'était historique. En Guyane, quoi.
Exactement. Voilà pourquoi on continuera à en parler, notamment toute la semaine, et on suivra bien sûr l'arrivée de ces deux ministres sur place à les informer de France Info. Ça doit se terminer, et oui, comme tous les soirs, malheureusement, c'est toujours un déchirement. Merci beaucoup à Audrey Signeux d'être passé ce soir. Merci Guillaume Jubin. Un petit coup d'œil à nos partenaires. La Une de Libération, Christophe Alix, demain.
C'est sur le Royaume-Uni. Vous allez nous manquer, avec une superbe photo de la reine Elisabeth avec des lunettes noires. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvée. Elle n'a pas dû très souvent emporter.
Ah, vous pensez? Peut-être pour Libération, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, puisque demain, c'est en effet le jour du déclenchement du Brexit. Et Gilles Vintraube, la Une Figaro.
Ben, nous, on a essayé de s'intéresser au fond. Le doute grandit sur le projet économique de Macron.
Voilà, à trouver demain dans le Figaro.